La musique.
Caravana maximum.
Je me fous du.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Inoubliable.
Vive mon panéon.
Vive le
soleil.
Vive
les oreilles.
Vive.
Vous êtes sur Radio Libertaire, ce sont les oreilles libres, et ce soir, je dis ce soir alors que c'est l'après-midi, en plus il fait super beau pour un début de mois d'octobre, c'est génial. Et je suis avec Rhys Chatham aujourd'hui, bonjour Rhys.
Bonjour Grégoire.
Eh ben,
je suis très content d'être là.
Moi aussi, je suis content d'être avec toi aujourd'hui. Patricia fait le son, Christophe va arriver à un moment ou à un autre pour nous rejoindre. Pour l'émission, cette émission, du coup, ce sera autour de ta musique, Rhys. Est-ce que tu peux nous parler du morceau qu'on vient d'entendre? Ça s'appelle Die Donner Götter. Ça a été fait en 86.
Oui, en fait, Die Donner Götter a été fait pour un ensemble de guitares électriques. 6 guitares électriques, basse et batterie. Et dans le groupe qui a joué ce morceau, on avait The Band of Susans avec Robert Paz et Susan Stenger. Mm-hmm. On avait Karen Hagloff, Bill Brovold. Et sur la batterie, on avait un très, très grand batteur qui s'appelle JP, qui joue avec les Dictators. Oui. Et bien sûr, sur la basse électrique, on avait Ernie Brooks, qui est connu pour jouer avec les Modern Lovers.
Ah, Modern Lovers.
Ouais. Alors, j'avais un groupe de All Stars et on a sorti ça pour la première fois dans une maison de disques d'Allemagne qui s'appelle Dossier Records. Mm-hmm. Je crois que c'est disponible aujourd'hui sur Table of the Elements Records, Radium Records, sur the Apple Store.
Malheureusement.
Oui, malheureusement.
Du coup, t'as dit beaucoup de choses déjà dès le début. Tu es compositeur et ça va être des guitares électriques. C'est quelque chose à laquelle on associe facilement ta musique, c'est l'utilisation des guitares électriques. Et quel instrument tu joues au départ? Tu étais accordeur de piano? C'est ça.
En fait, mon père il a joué clavecin.
Voilà.
Donc, moi, j'ai commencé avec clavecin et j'ai joué à la maison. J'ai entendu la musique de Notre-Dame, la musique de Perrotin et Léonin, des compositeurs comme ça. Et j'ai commencé ma carrière en musique avec la flûte traversière. Et j'ai commencé avec Bach, en jouant Bach et des choses comme ça, bien sûr. Mais quand j'avais un très jeune âge, j'ai entendu un compositeur fantastique qui s'appelle Edgar Varèse, qui a écrit quelque chose pour le flûte qui s'appelle Density, en anglais, 21.5, qui était un morceau pour solo flûte. Et j'ai demandé à mon professeur de flûte, j'étais au conservatoire à ce moment-là, est-ce que je peux jouer ce morceau? Et en fait, cette professeur s'appelle Sue-Ann Kahn, était un spécialiste en la musique contemporaine. Alors, elle a dit, bien sûr. Et à partir de ça, j'ai joué la sonate pour flûte et piano par Pierre Boulez, qui est assez difficile. Les morceaux, tout la musique pour la musique contemporaine. Et j'ai décidé, j'aime beaucoup cette musique, et c'est comme ça que j'ai commencé mon carrière comme un compositeur.
D'accord. Et après, il y a eu des pièces de toi, il y a Two Guns aussi qui est arrivé au début des années 70.
Mm-hmm. Et si on pense de la musique de Pierre Boulez et Two Guns, c'est deux musiques très, très différentes.
Qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux?
Oui, exactement, c'est un peu ça. Donc, à la fin des années 60, j'ai étudié avec un compositeur qui s'appelle Morton Subotnick. Et j'ai étudié counterpoint avec lui et j'ai utilisé son studio of electronic music parce que lui, il avait un synthesizer très très cher qui s'appelle The Boucle.
Oui, le Boucle.
Qui est très très cher. Et c'était si cher que tous les compositeurs étaient obligés de travailler dans un studio à l'université. Donc, j'étais à New York University à l'époque. Et j'ai utilisé son synthesizer et j'ai composé la musique électronique qui... Je vais chanter un peu. C'était un peu comme ça. Ouais. Un peu comme la musique de Morton Sabatini. Ouais, quand on pense de lui, la première chose on pense, c'est The Wild Bull, Silver Apples of the Moon. Et j'ai composé la musique un tout petit peu dans le cadre de cette idée. Ouais. Mais pendant que j'étais là, à cet studio d'electronic music, j'ai rencontré des autres compositeurs qui ont utilisé ce studio. Les compositeurs, par exemple, Elian Radic, par exemple, Charlemagne Palestine, par exemple, Serge Trepnin, qui était la personne qui a inventé le Serge Synthesizer, et aussi Marianne Amiche, des compositeurs comme ça. Et c'était, je dois dire, c'était plutôt la faute de Charlemagne Palestine et Elian Radic que je suis un minimaliste aujourd'hui. Parce qu'avant, j'étais un très, très bon compositeur de la musique contemporaine et j'ai fait des choses post-serial, des choses comme ça, un petit peu comme Boulez. Et des compositeurs de ça. Mais j'ai entendu la musique de Elian Radic et Charlemagne qui a fait la musique de longue duration. À l'époque, à la fin de les années 60, c'était pas, on n'avait pas un terme qui s'appelle minimalisme. C'était en fait le compositeur Tom Johnson qui était sur ce programme il y a une semaine, qui a inventé ce terme dans un article dans la Village Voice au début des années 70, ou les années 70. Ouais. Et alors, grâce ou à cause de Charlemagne et Elian Radic, j'ai commencé de faire la musique de duration très longue. Des drones, par exemple. Comment on dit drone en français?
On dit bourdon en général.
Bourdon?
Bourdon.
Est-ce que c'est masculin ou féminin?
C'est masculin, c'est par rapport aux insectes.
Bourdon. Hein, aux insectes. Ah, d'accord. Merci bien pour ça. Après ça, j'ai entendu, j'étais à un concert à The Metropolitan Museum of Art pour écouter un compositeur qui s'appelle Lamont Young. C'était dans 1971 ou quelque chose, maybe, peut-être 70, ou well, peut-être 69 en fait. Et on a Charlemagne et moi a entendu cet concert et c'était ça, c'était vraiment la musique minimalisme. On a écouté 45 minutes un morceau de un son, littéralement. Et si on tourne le tête un tout petit peu, la fréquence a changé à cause de la pression de l'air dans le. Et c'était très, très ennuyeux, mais très, très beau en même temps. Mais j'étais obligé de rester. Et on a entendu un enregistrement qu'il a fait avec un compositeur qui s'appelle Terry Riley. Qui s'appelle The Tortoise, His Dreams and Journeys, où il a chanté. Et c'était très, très ennuyeux, mais c'était si beau, je ne sais pas passer de quitter l'auditorium. Et j'ai fini. Il a changé ma vie. Et je me suis rendu compte qu'on avait une personne, des personnes, Terry, Tony Conrad, John Cale, et Lamont Young qui a fait cette musique de longue duration 10 ans avant moi. Et mais j'étais inspiré de ça. J'ai commencé à étudier avec Lamont Young et qui lui-même était en train de étudier avec Pandit Pranath, qui était un chanteur de la musique indienne asiatique. Et moi, j'ai commencé à étudier avec lui aussi. Et pendant, au début des années 70, j'ai composé la musique exactement comme le Lamont Young, mon bon professeur. Mais c'était normal, j'étais étudiant. Et souvent, les étudiants font la musique grosso modo comme ses professeurs. Et un de les morceaux que j'ai fait, pendant cette période était un morceau qui était sorti dans 1971 qui s'appelle Two Gongs. Est-ce qu'on peut jouer un tout petit peu de ça?
Two Gongs, est-ce qu'on l'a dans le dossier? Sinon on passe à Guitar Trio.
Oui, on a ça quelque part. Tu peux parler aux gens et se veiller des
questions. Ça va être Two Gongs, on va ajouter ça. On l'a dans le dossier? It's a bit. On écoute ça? Et c'était les Two Gongs de Richie Chatham. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette pièce?
En fait, c'était fait en 1971 et c'était pratiquement un direct copy de mon professeur de musique qui s'appelle Lamonte Young, parce que lui, il a fait dans les années 60 un concert avec un grand gong. C'était pas chez moi, c'était un sculpteur qui était fait par le sculpteur Robert Morris. Mais c'était j'étais inspiré de ça. Et à l'époque, j'ai travaillé comme un accordeur de clavecin. Et un de les sociétés pour qui j'ai travaillé était à louer des gangs chinois. Et j'ai demandé, est-ce que je peux utiliser ça pour un concert? Il était gentil avec moi. Et j'avais le usage de ces très, très grandes, de 42 pouces ou quelque chose comme ça, gang, gratuitement. Et donc, j'ai fait un enregistrement de ça. Et en fait, cet enregistrement s'était fait dans les années 80 au studio de Phil Niblock. Ah. Parce qu'il avait une série de concerts et j'ai joué les deux gangs avec Yoshi Masawada, qui était un compositeur qui a également étudié avec Lamonte Young. autour de 74, j'ai pensé, mes compositions sont trop comme Charlemagne Palestine, et trop comme Marianne Amiché, et trop comme Lamont Young. Parce que j'ai fait exactement ça. C'est trop, quoi. Je dois trouver mon propre voix. Tous les gens musiciens, à ça, tous les compositeurs, on arrive à un point, si on est trompettiste, on écoute tous les albums de Miles Davis et des choses comme ça. Moi, j'ai joué la trompette aussi. Mais on arrive à un point où on doit développer sa propre voix. Et moi, j'ai arrivé à ce point dans 74-75. Et j'ai dit à moi-même, alors, j'ai regardé mes oncles compositeurs. Mm-hmm. J'ai regardé Lamont qui a travaillé avec... Pandi Pranath, on avait un trompettiste qui s'appelle John Hassel, et il a étudié avec Pandi Pranath aussi, et Pandi Pranath a dit à John Hassel, il faut prendre cette musique que j'ai en zen et mettre ça dans un filtre personnel et faire quelque chose de l'Ouest, parce que vous êtes pas indienne, vous êtes américaine, donc il faut trouver une façon. Et John Hassel a vraiment réussi à faire ça avec le premier disque qu'il a sorti avec Brian Eno. Oui, exactement. Et j'ai regardé Steve Reich. Steve Reich a visité Ghana en Afrique et il a revenu dans les années 70. Et il a fait drumming, qui utilise le rythme qu'on entend à Ghana, mais il a mélangé avec la phase music, premier morceau piano phase et des choses comme ça, pour faire quelque chose complètement nouveau. Philip Glass a fait la même chose avec le process, musique indienne. Il a étudié avec Ravi Shankar et il a travaillé avec Richard Serra, le sculpteur, et il a inventé un truc qui, Richard Serra, lui, elle avait process art. Donc tous ces compositeurs ont mélangé quelque chose, et j'ai dit à moi-même, qu'est-ce que je peux mélanger? Et j'étais en train de jouer avec un compositeur qui s'appelle Peter Gordon, qui avait The Love of Life Orchestra. Et il m'a invité de jouer flûte traversière dans son orchestre, Love of Life Orchestra, au début des années, dans 72, je crois. Et j'étais très excité parce que c'était la première fois que j'ai joué avec un batteur de rock and roll qui, à l'époque, était David Van Tegum. Et j'ai rencontré Ernie Brooks dans ce contexte aussi, et Scott Johnson sur la guitare électrique. Et moi, j'étais très excité de jouer avec un groupe de rock.
Et là, tu étais à la flûte?
J'étais à la flûte traversière, oui. Alors, après une répétition, j'étais avec Peter Gordon et on a joué à Westbeth, qui était le west côté de west de Manhattan, et nous, on a habité dans le côté est. Donc, on était en train de marcher et Peter m'a demandé « Reese ?» Et j'ai dit « Oui ». Et il a dit « Est-ce que il est arrivé dans ta vie que tu as jamais... était dans un concert de rock? » Et j'ai dit non. Et j'avais 24 ans. Oui. Et j'ai écouté rock, mais jamais j'ai... Moi, quand j'étais au concert, c'était pour voir Terry Riley ou Jean-Pierre Rampal ou Glenn Gould ou quelqu'un comme ça. Et Peter a ri et il a dit, « Tu sais, Reese, il y a un groupe qui va jouer ce soir, pas loin de où on habite, dans un endroit qui s'appelle CBGB's, et viens avec moi, et on verra ce que tu penses. » Alors, c'était mai 76. Mai 76, et le groupe était The Ramones. Et ce que j'ai vu a bien changé ma vie. Parce que ce groupe The Ramones a joué, la musique était un peu plus compliquée que la mienne, hein. Il a joué 3 accords. Mm-hmm. Et moi, je jouais seulement 1. Mais j'ai vu la similarité des procès, des choses comme ça. J'ai dit,
finalement, c'était la même chose que vous cherchiez, même sans le savoir.
Exactement. Et le jour après, j'avais vraiment la chance. La personne qui a joué guitare dans le groupe de Peter Gordon, Scott Johnson, vient d'avoir un Stratocaster, Fender Stratocaster. Mm-hmm. Il m'a donné son Fender Telecaster.
Ah.
et il m'a appris comment on joue à bar chord et blues scale, très simple. Et j'ai commencé comme ça. Et c'était comme ça que j'ai commencé mon, comment on peut dire, love affair en français. Je crois que tout le monde comprend love affair ici en France. Mon love affair avec la guitare électrique. Mais j'ai découvert, j'étais arrogant, très arrogant, parce que j'ai pensé rock. On compte jusqu'à 4, je peux le faire. Moi, je joue la musique de Pierre Boulez, pour jouer la rock, ça, c'est pas un problème pour un musicien de musique contemporaine comme moi. Mais il n'a pas marché comme ça. Et j'ai découvert que, oui, je peux jouer le corps, mais je dois sentir la musique aussi. Et il m'a pris un an. Parce que, oui, je voulais faire quelque chose avec l'instrumentation de rock, mais je savais bien que je peux jouer mes morceaux avec les guitares électriques dans un endroit comme The Kitchen,
oui,
ou un endroit comme la musique contemporaine, en tant qu'être compositeur de la musique contemporaine. Mais ça, c'est un tout petit peu bullshit, parce que ça veut dire que j'ai approprié la musique de rock pour jouer dans un contexte de musique contemporaine. C'était pas intéressant pour moi. Je voulais faire l'inverse, de prendre les idées que j'ai apprises avec Charlemagne, Eliane et Lamont et Tony Conrad et faire une fusion ou mélange ces choses en travaillant avec les musiciens qui viennent de le monde de rock et en jouant cette musique dans les clubs de rock comme CBGB's et Max's Kansas City. Et le résultat, c'était fait en 1977 et c'était un morceau qui s'appelle Guitar Trio, qui était le premier morceau que j'ai fait, que j'ai considéré que c'était pas un travail d'étudiant. Mm-hmm. C'était avec Guitar Trio, j'ai trouvé ma voix.
C'était toi. Oh. Eh bien, on va écouter ça maintenant. Ok, allons-y. Guitar, c'était Guitar Trio de Rishi Hatam. Avec qui sont les musiciens qu'on a entendus?
Comment?
Les musiciens qu'on a entendus dans l'enregistrement.
Oh, en fait, c'est David Linton sur la batterie. Joe Disney qui a joué avec un groupe qui s'appelle L'Ordinaire à New York, et Nina Canal, une musicienne anglaise qui joue actuellement avec et à l'époque avec un groupe qui s'appelle Out, qui est un groupe de trois femmes qui joue la musique rock.
Trop bien. Et ce morceau, vous l'avez joué au CBGB's?
J'ai le premier. Comme j'ai dit avant, oui. L'idée de cette musique est... moi, j'étais un compositeur de la musique contemporaine. Quand on pense ici, en France, de la musique contemporaine, on pense de Pierre Boulez et des gens comme ça. Mais à New York, la musique contemporaine était plutôt Philip Glass, Steve Reich, Lamont Young et des gens comme ça. Et moi, je viens d'une tendance comme ça. Mais j'ai décidé que je voulais mélanger la musique de rock de The Ramones, par exemple, avec ces tendances minimalistes. Mais je ne voulais pas faire ça dans un contexte d'art. Ça veut dire dans des endroits d'art comme The Kitchen ou un musée ou quelque chose comme ça, parce que je savais que je peux faire ça, parce que j'étais connu comme un compositeur. Je voulais faire cette musique avec ces mélanges dans les clubs de rock, avec les musiciens de rock en jouant. Et alors, le premier endroit on a joué, et la raison pour laquelle je voulais faire ça est pour être authentique. Est-ce que j'ai vraiment fait un mélange qui n'était pas prétentieux? Et à l'époque, il faut rappeler, à la fin des années 70, c'était l'époque de punk. Et donc, on a cette idée que est-ce que j'étais trop arty? Et c'était une époque où les gens ont pensé que la musique était trop arty, qu'il va jeter les canettes de bière avec la bière dedans. Et on peut être tué. Parce que c'était assez violent dans les clubs de rock à l'époque. Alors, la première fois on a joué, c'était à Max's Kansas City. Et j'avais vraiment peur. J'ai joué dans mon groupe à l'époque, était un musicien qui s'appelle Glenn Branca, et Nina Canal a joué, et Wharton Tears, qui a, était le batteur qui a joué avec un groupe qui s'appelle Theoretical Girls. Et pour Glenn, c'était la première fois qu'il a joué avec une guitare dans un accrochage d'octave et en jouant avec les harmoniques. Et mais c'était vraiment rock and roll. Et les gens, c'était intéressant parce que pour un public de musique contemporaine, il a entendu cette musique et il a pensé, ah, c'est un nouveau espèce de la minimalisme. Mais le public rock a pensé, oh, c'est wall of noise. Wow. Et les gens ont demandé à l'ingénieur de son où se trouve, où se cachent les chanteurs. Ah, oui. Parce qu'il a entendu les harmoniques. Et ça, j'étais très content quand j'ai entendu ça, parce que ça veut dire que il a entendu les harmoniques dans un contexte de rock sans prétention. On n'a pas besoin d'ESS en musicology pour apprendre ce truc. C'est là pour tout le monde à apprécier.
Super. Et après, tu as commencé à aller plus loin avec les guitares. Et le morceau qu'on voudrait passer, c'est Dusty Classicism.
Oui, en fait, j'ai fait ce morceau dans 81.
Ouais.
C'était dans le contexte d'un dance de Carole Armitage. Et c'était... On verra, mais c'était un petit plus noisy que Guitar Trio.
C'est plus de dissonance.
Oui, je vais expliquer l'accordage après.
Alors,
peut-être
on
peut
ça.
Écouter.
D'accord. Ouais. Vous êtes sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 FM et radio-libertaire.net partout sur Terre, à Manhattan ou en Birmanie, au choix. Et on vient d'écouter Drastic Classicism, une pièce de Rishi Hatam, ça c'est un enregistrement qui est sorti sur Table of the Elements. Est-ce qu'on peut parler, Rhys, du processus de composition de cette pièce, parce que c'est assez différent de Guitar Trio qu'on a entendu
avant. Oui, avec Guitar Trio, l'idée était, ce qu'on entend, c'était ami.
Tout simplement.
Et les gens demandent, est-ce qu'on peut jouer des autres notes à partir de mi? Mais en fait, oui, on joue à mi pendant la composition.
Les guitares sont accordées tout en mi? Toutes les cordes sont en mi?
En fait, non. Au début, oui, tous les cordes c'était en mi, c'était trois cordes de mi grave et trois cordes de mi aigu.
Oui.
Et j'ai fait des accordages comme ça parce que je voulais travailler avec les harmoniques de la guitare électrique. Oui. Comme tu le savais, j'étais accordeur de clavecin pendant longtemps. J'ai accordeur le clavecin de Glenn Gould, de Gustav Leonhardt, les gens comme ça. Et pour accorder un clavecin, il faut entendre les harmoniques. Mm-hmm. Mais les harmoniques dans un piano ou clavecin, c'est pas fort, hein, et c'est douce. Et mais avec une guitare électrique, on a une guitare ampli. Un ampli guitare, et on peut mettre le volume sur 7 ou 8 ou 10 ou 11, et on peut bien entendre les harmoniques. Et alors, Guitar Trio, c'est un morceau pour les harmoniques de la guitare électrique. Et la façon de jouer, je joue un rythme caractéristique
ouais.
Oui, qui va comme da 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 comme ça. Et les autres musiciens entendent ça et ils font quelque chose, une improvisation, si tu veux. Bon, c'était une improvisation. En counterpoint de ça, ils trouvent une autre mélodie, par exemple da 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 da.
Et ils trouvent pas tellement de règles en fait, c'est ça.
Exactement. Et c'est pour ça que je dois travailler avec des musiciens qui peuvent bien jouer rock. Et ont l'habitude à trouver ses propres rythmes. Mais tout le monde doit entendre les harmoniques. Parce que la vraie musique, c'est pas dans le rythme, c'est dans les très belles harmonies qu'on fait, qui est comme les chœurs des anges. Et parce que quand chaque personne fait une chose, ça, on a un effet de en anglais, on dit composite waveform. Comment on peut dire ça en
français? Processus de l'opposition.
Onde. La onde.
Ah, les ondes, allez, oui.
De tous les guitares. Donc, oui. Il faut être très sensible de le son. Oui. Et c'est vraiment une improvisation entre les trois guitaristes. Par contre, Drastic Classicism, ce qu'on vient de jouer, je voulais faire un autre accordage qui était dans un système d'accordage pythagorien. Oui. Et la guitare que j'ai jouée, c'était un ré grave, un la, un autre ré, ré dièse, mi, et après un ré aigu. Et, mais c'était accordé, le ré et le ré dièse, dans, je crois que c'était un intervalle comme 63 jusqu'à 64.
Mais c'est pas les hauteurs classiques qu'on est habitué à entendre dans la musique en général. C'est vraiment les hauteurs trouvées par Pythagore sur son monochorde selon les formules, les proportions.
Exactement.
Comme la Montiante fait ou Tony Conrad.
C'est exactement ça.
Voilà, c'est ça.
Et donc c'était très très précis. Et l'autre guitare était le même accordage, mais moi j'étais en ré. Elle était dans Do dièse, un troisième guitare qui était dans Ray Diaz et une autre guitare qui était en mi. Donc c'était très, très dissonant. Et en fait, c'est un morceau assez violent. Et on a vraiment joué très, très fort sur les guitares électriques. Et je me suis rendu compte, après 3 minutes, toutes les guitares n'étaient pas bien accordées.
Ah.
Et les accordages, on a commencé avec l'accordage d'un très, très bon accordage, pythagorien, mais il a...
Les guitares tenaient pas
l'accordage. Il a fini comme the out of tune guitar. Et c'était assez intéressant. Et c'est un de les morceaux, je suis fier de ça, qui a commencé le mouvement noise rock aux États-Unis avec les groupes comme Arthur Lindsay et DNA et Lydia Lunch, bien sûr, et Teenage Jesus and the Jerks et des groupes comme ça.
Super. Eh ben, on voulait écouter l'Adagio Section de la pièce pour 100 guitares. On va parler de ça ensuite.
Ah, d'accord. On va déjà jouer avec les... Oui, mais j'ai une petite histoire que je dois dire pour faire une introduction. En fait, je voulais faire, au début des années 80, un morceau pour 100 guitares électriques.
Déjà,
j'avais l'idée.
Ouais.
Mais il faut rappeler que c'est l'epic punk. Et l'idée était... de trouver 100 guitaristes avec le public, fermer à clé la porte, et on s'appelle le piece torture box. Et c'était un gesture punk, si tu veux.
Ouais, ouais.
Et j'ai pensé, je ne suis pas prêt. En fait, c'était vers 86, j'avais cette idée, et je viens de faire Die Donnergötter avec 6 guitares électriques, basse et batterie. Non, c'était entre ces deux morceaux. Donc j'ai décidé, avant de travailler avec 100 guitares électriques, je vais travailler avec 6 guitares électriques. Et c'est comme ça on a fait Die Donnergötter. Dans 1988, j'étais prêt. Parce que, bien sûr, on peut prendre 100 guitares électriques et on peut jouer Louis Louis.
Bien sûr.
Et ça va être incroyable, parce que c'est 100 guitares,
oui.
Quoi. Mais moi, je ne veux pas faire un truc simplement pour le beau spectacle. Je voulais vraiment traiter ça comme un très, très beau instrument, comme un orchestre. Mm-hmm. Et dans 1988, j'ai déménagé... en France, c'était grâce à une femme qui a décidé. Dans les années 80, on avait un très bon président en France qui a donné 1% de le budget national aux arts. Et ma femme, qui était française, a dit moi, je vais revenir. Toi, tu peux rester ici, mais tu peux venir si tu veux, hein, mais moi, je reviens. Parce qu'elle était chorégraphe. Et j'ai décidé de suivre. Et j'ai rencontré un manager qui s'appelle Francis Falsetto, qui est actuellement connu pour travailler avec les Éthiopiens et les musicologues maintenant. Et il m'a fait connaître un endroit à Lille qui s'appelait l'Aéronef. Et c'était en 1989. Et ils ont commandé mon premier morceau pour les 100 guitares électriques qui s'appelle « An angel moves too fast to see, un ange se déplace trop vite pour voir. » Et peut-être on peut jouer un morceau, c'est la section adagio.
On écoute la section adagio.
We'll be right back.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 FM dans les oreilles libres et on est avec Richie Tam. On vient d'écouter un extrait de An Angel Moves Too Fast to See. C'était un enregistrement qui date de 89 ou la pièce date de 89 mais l'enregistrement est plus tard.
C'est ça. Enregistrement.
C'était pour 100 guitares, basses et drums. Et tu voulais parler un peu du batteur.
Oui, en fait, le batteur là au début. Et dans cet enregistrement était Jonathan Cain, qui était le batteur d'origine de le groupe Swans.
Ah, les Swans.
Et toujours on a Ernie Brooks sur le basse.
Et justement, oui.
Oh, et en fait, c'était un projet français.
D'accord.
On a fait ça pour la première fois dans 1989 à Lille, dans un endroit qui s'appelle l'Aéronef. Après ça, oui. Après 89, on a fait ça en Australie, à Paris deux fois, à Suresnes, à Strasbourg, en Angleterre.
Avec les mêmes 100 guitaristes tout le temps?
Mais pas avec le même secrétaire.
Ouais, en plus,
oui.
À chaque fois, c'était sur place, tu voulais trouver.
Exactement.
Voilà.
Quand on a fait ça à Montréal, ce qu'on a fait, on a pris notre équipe qui vient de Paris, de Toulon, de Poitiers, de New York, et on a répété ensemble, et c'était ces chefs de section qui a pris la musique aux guitaristes de région.
Et les guitaristes, alors du coup, ouais, là c'est le moment, l'organisation, comment on compose pour 100 guitares, ou à peu près plus ou moins 100 guitares? C'est par pupitre, tu composes les parties séparées et tu leur donnes ensuite?
En fait, ce que j'ai fait dans An Angel Moves to See, j'avais trois accordages différents.
Oui.
Et donc on avait 50 guitares qui a joué le partie soprano. Qui était, l'accordage était deux cordes de ré accordées comme un mi et quatre cordes de mi aiguë. Et j'avais une partie pour soprano 1. On a 30 guitaristes qui a joué ça et 20 guitaristes qui a joué à soprano 2. On a une partie alto, c'était un accordage de deux cordes de la normal, grave, et quatre cordes de sol accordées comme un la. Et on avait 30 guitares comme ça, et on avait un alto 1, alto 2, 15 musiciens chaque. Et enfin, un accordage tenor, qui était deux cordes de mi grave, avec quatre cordes de ré accordées comme un mi. Et on avait un tenor 1, 10 tenor 1, 10 tenor 2. Et donc, on avait six parties séparées. Et on a divisé tous les guitaristes en son propre groupe et les chefs de section ont pris la musique à ces guitaristes.
Mais comment tu composes pour 100 guitares? Enfin, à part le nombre, c'est quoi la différence pour toi? Parce que tu dois imaginer l'ensemble des choses dans ta tête. C'est très très dur. C'est beaucoup plus dur que de réunir un trio ou un set store pour travailler une composition en fait.
Pour la première fois que j'ai fait ça, ouais. C'était à la fin des années 80.
Ouais.
C'était assez dur. Mais tu sais, les compositeurs qui viennent de conservatoire ont l'habitude
d'entendre sa tête.
Exactement. Mais moi, j'avais un avantage parce qu'on avait un truc à l'époque qui s'appelle The Akai S900. Et c'était un sampler. Et donc, ce que j'ai fait un sample. Comment on dit sample encore une fois en français? Enchantillon.
On dit quand même sample. Échantillonneur, on peut dire, mais on dit sampler quand même.
D'accord. Un sample de mon groupe de 6 guitares électriques, surtout quand on jouait un tremolo. Et comme ça, j'ai simulé ce que je pense, les sons de guitare. Mais quand j'ai fait les sons de guitare la première fois, je n'étais pas sûr. Est-ce que ce que j'avais dans mon tête va être ce qu'on a live, quoi? Et quand j'étais là avec mon manager Francis Falsetto et Jonathan et Ernie, on a entendu les sons de guitare la première fois. Et moi, j'ai pratiquement pleuré avec joie. parce que c'était encore mieux que ce que j'ai imaginé.
Ça doit faire un effet de dingue, la première fois qu'on... Ouais, je vois très bien. Je voulais parler un peu... Ah, oh, c'est triste, ouais. Récemment, Glenn Branca est décédé. Est-ce que tu veux parler un peu de lui?
Oui, ça, c'était très, très triste parce que j'avais un ami qui était comme un frère qui s'appelle Glenn Branca. Mm-hmm. Et Glenn a joué avec moi en guitare trio dans les années 70. Ouais. Et j'ai donné à Glenn... on était très proches. Hein. Mm-hmm. Et j'ai donné une guitare à Glenn avec tout accordé en mi. Et Glenn et moi a joué à Max's Kansas City, et moi j'ai joué guitar trio. Et lui, il a dit, oh, j'ai un nouveau band. Et c'était son ensemble pour 8 guitares électriques.
Theoretical Girls, c'est ça?
Comment?
Theoretical Girls.
Non, Theoretical Girls, c'était un groupe avec Jeffrey Lowen, et c'était un groupe de rock.
Mais Glenn était dedans.
Oui, Glenn était dedans. Mm. Et Glenn avait aussi un groupe qui s'appelle... Oh, j'ai oublié le nom. Où il était le chanteur. C'était un groupe de rock. Comment ça s'appelle? Je vais rappeler plus tard. Mais il a vu Jeffrey, il a vu moi en tant d'être compositeur. Oui. Et il a pensé, moi, je peux faire ça aussi. Alors... Il a pris mon idée d'avoir de ses guitares dans un accordage spécial.
Oui, oui, oui.
Et quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai dit, je ne sais pas si je peux dire ça, j'ai dit, merde, qu'est-ce qu'il fait ici?
On a droit de tout ici.
Qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce que c'est ce Beans? Mais j'ai entendu la musique. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'était pas ma voix du tout, c'était sa voix. Et j'étais très, comment dire ça en français, soulagé.
Soulagé?
Relieved.
Oui, soulagé.
Oui,
ouais.
Soulagé. Et j'ai dit, bon, ça va quoi.
Ouais, ouais.
Parce que, il faut rappeler, on n'a pas droit d'auteur sur un accordage.
Ben
on n'a pas droit d'auteur sur. Une instrumentation et on a le droit à faire la belle musique et ça la chose qui est le plus important donc lui il a fait très très beau musique pour son groupe de 8 guitares électriques et dans l'année 2000 il a évité de faire quelque chose avec son guitare pendant longtemps parce qu'il veut dire si je fais ça tout le monde va faire un comparaison avec Reese qui a fait ça depuis 89. Mais c'était logique que lui aussi a fait quelque chose avec les sons guitare à cause de son histoire et avec son love affair avec la guitare électrique. Et j'étais très content quand lui et on a des autres personnes qui fait des compositions pour son guitare aussi. Mm-hmm. Parce que c'est, vraiment, c'est un très, très beau on dit, instrument.
Bel instrument.
C'est un bel instrument.
Bien sûr.
Et il faut profiter. Et quand on regarde Glenn et moi, c'est un tout petit peu quand les gens regardent Philip Glass et Steve Reich. Oui. C'est musique qui est similaire. C'est dans le même camp, si on veut. C'est le même genre de musique. Mais c'est deux musiques différentes.
Ouais,
et c'est la même chose avec Glenn et moi. Il y a quelques mois, mon ami Robert Longo, qui est un plasticien, m'a texté. En disant que Glenn est mort. Et il avait un jeu. Il a mouru dans... il était en train de dormir.
Ouais,
il a dormi comme ça. Et c'était à cause qu'il a fumé trop.
Ouais.
Et c'était cancer de comment dit ça, poumon?
De la gorge.
De la gorge,
ouais,
oui. De la gorge. Et c'était très triste parce que il est jeune, il était jeune, relativement. Il avait 69 ans, quelque chose comme ça. Donc, En fait, à la fin de sa vie, c'était dur. C'était très dur entre Glenn et moi. À cause de, quand on a une comparaison de, dans la presse tout le temps, c'est pas toujours facile, ni pour lui, ni pour moi. Quand même, quand j'ai entendu la nouvelle qu'il était mort, c'était un choc. J'étais comme un zombie. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que vraiment, il était comme un frère. Il était un frère qui était... j'étais toujours énervé contre ce frère, mais il était mon frère quand même. Et donc, je pense... pour la prochaine morceau de Song Guitar que j'ai fait, je vais faire une dédication à lui.
Super. Alors, le prochain morceau qu'on va passer, c'est un morceau de Crimson Grail. Pour 400, enfin, c'est écrit pour 400 guitares électriques. Et ben, on va écouter ça maintenant.
Thank you.
sur Radio Liberté. Vous êtes dans les oreilles libres et on écoute A Crimson Grail. Tu l'as composé en 2003, c'est ça, Rhys?
J'ai oublié, en fait.
Ou alors c'est l'enregistrement qui date de 2003?
Je crois que c'était 2005, d'accord. Mais c'est possible que je me suis trompé. Mais de toute façon, on a fait ça pour la première fois ici à Paris, dans le cadre de la Nuit Blanche, ouais. Dans octobre de 2005. Et alors je crois que la composition a été faite dans 2005. C'était fait pour 400 guitaristes. Et c'était fait pour 400 guitaristes parce que je pensais que l'idée était pour entraîner le public à Sacré-Cœur avec des guitaristes. Et je pensais que j'avais besoin de 400. Mais en fait, on a fait le morceau. On avait beaucoup de gens qui sont partis pour les vacances scolastiques. Et donc, au lieu d'avoir 400 personnes, on avait 129. On avait 100, entre guillemets, ouais. 129 personnes. Mais j'étais surpris parce que. À Sacré-Cœur, 129, c'était suffi pour entraîner le public.
Ouais, ouais, ouais.
Et c'était. Le morceau était fait spécialement pour Sacré-Cœur parce que c'est spécial, Sacré-Cœur. Mm-hmm. Dans le sens qu'on a un temps de réverbération là, de 15 secondes. On a pensé. Les gens me demandent tout le temps quand ils entendent Sacré-Cœur. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu n'aimes pas la batterie? Pourquoi on n'a pas une batterie? En fait, on a essayé d'avoir une batterie. On a pris Jonathan Kane et moi, on était à Sacré-Cœur avec un casque clair. Et on a fait un frappe. Et 15 secondes plus tard, c'était toujours là. Donc, pas de question, on ne pouvait pas avoir de batterie pour ça. Donc, c'était un morceau qui a été fait spécialement pour Sacré-Cœur. Ouais. Et ce disque était sorti originalement. On a une version qui est sortie avec Table of the Elements Records. Ça, c'est ma version préférée. On a fait une version avec 200 guitares électriques avec Nonesuch Records.
Toujours au Sacré-Cœur?
C'était à New York, à Lincoln Center.
Ouais.
Et, mais je préfère toujours la version qu'on a fait à Sacré-Cœur.
On peut parler un peu de tes projets plus solo parce que tu as travaillé aussi avec tu improvises aussi avec des gens. Plus ou moins solo. Par exemple, tu faisais avec Charlemagne Palestine il y a quelques années.
Et, j'ai un duo que j'ai fait avec Charlemagne. Lui, il joue le piano et moi, je joue la guitare et la trompette.
D'accord.
Et aussi, je viens de sortir un disque, il y a 2 ans. Ouais. J'ai sorti un disque qui s'appelle Pythagorean Dream. Et c'est pas une improvisation. C'est quelque chose qui est écrit. Je commence avec la guitare électrique.
Ouais.
Après, je joue les flûtes traversières, je joue la trompette, et toujours avec les boucles. Mais ça, la dernière fois que j'ai sorti un disque, ça fait 2 ans, sur Foom Records, qui est une maison de disques d'Angleterre. Mm-hmm. Et je pensais que peut-être maintenant, c'est le temps pour sortir un nouveau disque. Et je viens de travailler avec un très, très bon compositeur, musicien que je connais depuis les années 70, qui s'appelle Gedalia
Tazartes.
Exactement. Mm-hmm. Et je connais Gedalia de New York. En fait, la dernière fois que j'ai vu Gedalia était à CBGB's à New York à la fin des années 70. Et grâce à un ami qui est mon booking agent actuel qui s'appelle Pascal Régis de Julie Tippex Booking, lui, il travaille avec Gedalia. Comment s'appelle ça, son nom de famille?
Tazartes.
Tazartes, oui. Tazartes. Et grâce à lui, on s'est rencontrés et on a joué ensemble. On a fait un concert privé. Et donc, j'ai un enregistrement de ce qu'on a joué, qu'on peut entendre, pour avoir un petit goût de ce qu'on a joué. Et j'espère qu'on peut sortir cet enregistrement. On cherche actuellement une maison de disques pour sortir cet enregistrement.
D'accord. Et qu'est-ce que tu as d'autres comme projet là qui arrive à annoncer? On est bientôt à la fin de l'émission.
On a un concert prévu en France pour un nouveau morceau avec les sons guitare électrique. On vient de faire les sons guitare au Havre dans l'été. C'était un nouveau morceau qui s'appelle La Flamme d'Albon, qui était pour la fête d'été, en fait. Mm-hmm. Donc, je vais continuer de développer ce morceau et on est sous discussion pour monter ce projet en Lorraine. Et donc, on va avoir un appel pour guitariste bientôt. Et si toi, tu veux
voilà,
jouer,
on est intéressé avec Christophe, voilà.
je vais prendre vos emails et je vais te créer bientôt.
Est-ce que tu as d'autres choses à annoncer? Ou c'est tout?
Je crois que c'est tout pour le moment.
Ok, Christophe, il y a des annonces ou pas pour toi? Non, il n'y en a pas, c'est très bien. Ben, on va se quitter sur ce morceau avec Guédalia Tadartès. Il n'a pas de nom pas encore? Il n'y a pas de nom de projet?
On n'a pas un nom pour le projet. Oui. C'est tout neuf. Okay. Alors, c'est projet, c'est duo avec Guédalia Tadartès et Les Chatons.
Et c'est tu à la guitare?
Et c'est moi à la guitare,
voilà.
Oui.
Ok, on va finir là-dessus. Eh ben, merci Christophe, merci Patricia, merci Rhys d'être venu. C'est
merci
super.
Grégoire.
Et on se retrouve la semaine prochaine avec...
Avec le Festival Crac.
Avec le Festival Crac, c'est super. Et on se quitte là-dessus. C'était Les Oreilles Libres.
Le
Festival Frasque, le nom est proche, désolé. Eh ben, on vous fait des bisous à tous et à la semaine prochaine.
Mm-hmm. Noël qui naissait. Oh, yeah.